Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show. Foot Time Show.
Bonjour à tous et bienvenue dans le RKS Foot Time Show, votre émission hebdomadaire sur le ballon rond. Et oui, on est présent, on va parler football, on va parler European Champions League, on va parler Ligue 1, on va parler Ligue 2. Mais avant tout, j'accueille mes deux invités, mes deux amis, mes deux acolytes. Tout d'abord, mon Kiki, mon Kevin, comment ça va ?
Bah écoute, Melvin, ça va bien. Heureux de te retrouver à ta place. Je t'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise à
c'est
côté.
Vrai
ouais, ouais. Bah les platines, c'est pas facile.
Mais moi, je suis à l'aise quand je suis avec vous. Quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est tout simplement ça.
Exactement.
Et coucou, mon Pierrot, comment vas-tu, mon Stéphane Plaza de l'immobilier ? Comment tu vas ?
Je suis partagé. Je suis partagé, un peu à l'image de la semaine du Paris Saint-Germain, mais voilà, je suis partagé. En tout cas, je suis ravi de te retrouver. J'espère que ton transit intestinal va mieux.
Oui.
On est ravi de t'avoir avec nous dans la radio.
Non, c'était ma petite femme surtout, mais ça va, elle va mieux. mon transit va bien. Bon les gars, on va parler grosse actu hein, puisqu'on va revenir sur la journée de LDC de cette semaine. On va parler également de celle à venir. On va parler du duo parce que ça a beaucoup parlé cette semaine entre le j'ai envie de dire un duo, mais c'est plutôt un affrontement entre Haaland et Mbappé.
On aime bien nous le présenter comme ça. Je pense qu'on est nostalgique de la rivalité Messi-Ronaldo. On a envie de les remettre face à face et moi je trouve pas que ce soit une mauvaise idée.
Eh bien on est bien là.
Et puis soyons un peu chauvins en plus. Pour le coup là il y a un Français. Après le règne Portugal-Argentine, voilà, ravi d'avoir un Français en tête de liste.
Français-Norvégien c'est bizarre quand même. Hein.
Ouais. Mais bon, c'est comme ça.
C'est comme ça. On parlera aussi de la Ligue 1 et notamment du match hier entre le Paris Saint-Germain et Monaco. On parlera forcément.
Là, on n'est pas obligé. Hein.
je t'assure qu'on va en parler. Il y a plein de choses intéressantes à dire sur ce match.
Ouais.
On a déjà commencé à allumer le feu d'artifice hier soir et puis on va le continuer. On va parler aussi forcément Ligue 2 avec le GF38 et la super performance encore cette équipe de caractère. Et on aura un invité de marque puisque Biagi Kamisoko, ancien joueur du GF38 qui a connu toutes les époques, hein, puisqu'il a été formé au GF38. Il a connu l'époque de la Ligue 2 juste avant le rachat de Index. Et il est revenu aussi en GF38 en 2013 après le dépôt de bilan. Donc ça sera une super chose de l'avoir avec nous pour revenir sur tout ça. Les gars, on n'oublie pas qu'on est sur RKS et on va parler dans un instant de la Ligue des Champions.
RKS.
Ça me met des frissons tout
tu
ça.
Tu sens le vent de l'Europe qui
je
souffle.
Le sens, il a soufflé dans mon oreille le vent de l'Europe. J'ai les premières notes de la mélodie de la Ligue des Champions. Puisqu'on va en parler à l'instant, les matchs aller de ces huitièmes de finale. Tout d'abord, on ne va pas revenir tout de suite sur le Paris Saint-Germain et Barcelone. On en parlera enfin parce que c'est certainement les choses où il y aura le match où il y aura le plus de choses à dire.
Qu'est-ce qu'on a été mauvais dans nos pronostics quand même. C'est quand même extraordinaire. À part toi, Melvin.
J'ai eu un tout juste sur Liverpool.
Juste
face à
Liverpool, ouais.
J'ai fait un éclair dans le football, je vous dise.
Mais c'est ça.
Liverpool qui gagne 2-0 assez logiquement sur un match où Leipzig n'a pas existé pour moi.
Ouais, c'est dommage, je trouve, de les avoir vus à ce niveau-là. Moi, on les sentait bien, Leipzig. Ils avaient fait une belle campagne en phase de poule. Ils étaient en plus à domicile contre un Liverpool qu'on sait, et ça s'est confirmé ce week-end, fragile et fébrile. Mais Liverpool avait l'air d'être en mode Ligue des Champions parce que même d'un point de vue solidité, je trouvais que le match de Liverpool avait été très intéressant. Je crois qu'en plus, les trois défenseurs de Liverpool, Robertson, Kabak, je sais pas comment il s'appelle le défenseur, et Alexander Arnold sont dans l'équipe type de la semaine.
C'est pas
rien contre une équipe en plus de Leipzig, qui certes cherche encore son numéro 9, mais qui disposait quand même d'un bel effectif. Donc c'est comme ça, on va avoir le match retour, mais surprenant ce match. Mais tous les matchs ont été surprenants aussi, parce qu'on ne s'attendait pas non plus à ce que Dortmund fasse ce type de résultat-là contre Séville.
Bah, Dortmund qui littéralement se fait surprendre au bout de 7 minutes de jeu, hein, qui on pensait alors le match difficile pour eux.
Ouais.
Et puis on a ce Erling Haaland qui nous régale, qui nous ravit, hein, puisque Borussia Dortmund vient surprendre Séville 3-2 en terre espagnole.
Quant à ce genre de joueur-là avec toi, avec cette précision, cette finition clinique devant le but, c'est tout de suite plus facile, c'est sûr.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierrot, de ce Dortmund et de Haaland, justement, on parle sur Ligue des Champions, on en reviendra après sur son duel face à Mbappé. Mais, mais il tient cette équipe quand même.
Il y a deux choses. Alors, pour rapidement revenir sur Leipzig-Liverpool, parce que Kevin a commencé par là. Sur ce match, bon, on peut, pour ceux qui n'auraient pas vu, pour nos auditeurs qui ne sont pas abonnés à RMC, parce que sur un résumé YouTube, tu as 2 minutes 30, il faut quand même voir la physionomie du match. Leipzig aurait dû ouvrir le score très rapidement. Par chance, la balle tape le poteau, le dos du gardien, et elle s'en va. Donc normalement, Leipzig aurait dû ouvrir rapidement. Ils ont été conquérants en première mi-temps. Et c'est sur deux offrandes du milieu de terrain de Leipzig que Mané et Salah se présentent seuls face au gardien. Je n'ai pas senti un grand Liverpool. Il y en a certains dans la presse qui ont dit qu'ils étaient rassurés par la prestation aboutie de Liverpool. Moi, j'étais content de les voir gagner parce que je suis mal à l'aise quand je vois une équipe aussi brillante de l'année dernière, même avec les absents, être dans une telle tourmente. Mais sincèrement, sur la physionomie du match, Liverpool méritait pas de gagner. Tu enlèves les deux frappes cadrées et les deux buts qui sont sur deux offrandes, sur deux caviars des joueurs de Leipzig qui vraiment envoient en face à face les deux meilleurs attaquants, deux des meilleurs attaquants de Première Ligue. Tu peux pas faire ça en Ligue des Champions. Tout comme la Juventus s'est foirée aussi sur sa relance. Pour moi, Leipzig, d'ailleurs c'est ce que annonce la presse allemande, hein. Leipzig a clairement offert le match à un petit Liverpool et Leipzig, de par le jeu qu'elle a développé, aurait dû rouler logiquement sur Liverpool.
Ouais, ça a été un match plus équilibré que ça, Pierre. Ouais, tu peux pas dire que Liverpool a fait un match sérieux.
Moi,
c'était une Leipzig pour moi a payé effectivement, je pense. Mais de toute façon, à ce niveau-là, les erreurs, elles se payent cash. Hein. Tu parles là de la Juve. La Juve aussi donne un but et dort sur l'autre. Mais à part ça, Porto n'a pas fait forcément le jeu ni n'a été conquérant. Ils ont juste été super solides. Moi, j'ai l'impression que Liverpool a fait à peu près la même chose. Ils ont fait le dos rond. Ils ont subi, certes, mais ils ont. Par rapport à ce que moi j'attendais de ce match-là, je pensais que Liverpool pourrait faiblir, notamment défensivement, que ça pourrait craquer. Et finalement, ils ont fait un match plutôt sérieux derrière. Donc, je pense que c'est plus effectivement.
Tu peux mettre en avant la solidité défensive. Après, de manière pragmatique, regarde le résumé du match. T'enlèves les deux buts qui sont sur deux erreurs, mais catastrophiques.
Oui, mais c'était la Ligue des Champions, ça, Pierre.
De Leipzig derrière, Liverpool a rien montré.
Oui, mais c'est la Ligue des Champions, t'as pas besoin de montrer beaucoup. C'est des erreurs en fait. Des fois, les matchs comme ça, et surtout de plus en plus quand tu vas rentrer dans les phases d'élimination directe, c'est des épisodes des fois de matchs, des détails qui font la différence. Et même si des fois t'as l'impression que t'as été meilleur, que t'aurais pu marquer, tu peux avoir 45 occasions. Si toi t'en as pas et que l'autre il en a une et qu'il doit la mettre au fond, tu perds 1-0 et malheureusement tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi.
Mais tu vois, je trouve que, et d'ailleurs ça correspond aussi un peu à la rigueur allemande, je trouve que sincèrement là-dessus la presse allemande est souvent juste. Et quand ils ont dit le lendemain réveil avec une gueule de bois pour Leipzig, je partage vraiment cette opinion et ce ressenti qu'a pu avoir Leipzig à la sortie, avec vraiment la sensation de passer, d'avoir offert la victoire. Alors peut-être que ça méritait pas une victoire flamboyante du RC Leipzig, peut-être que Leipzig n'était pas totalement au-dessus de Liverpool, mais Leipzig méritait bien mieux et méritait à minima pour moi le match nul. Parce que, encore une fois, tu me dis, comme l'a été Monaco hier, l'équipe de Liverpool a été réaliste, elle s'est créée 2-3 occasions qu'elle a mis au fond. Là, Liverpool, c'est quasiment rien créé, hormis la double occasion chaude qu'ils ont à la 14e minute. Pour le reste, c'est 88 minutes de néant offensif. Mmh. Hormis les deux offrandes de Leipzig, Liverpool a rien montré offensivement, hormis à la 14e minute.
Après, Pierre, c'est quand même 52% de possession pour Liverpool, c'est 10 tirs, 3 cadrés, c'est plus que Séville, hein.
Ouais, mais dans le contenu, sur le match, là, j'ai regardé quand même en grand format. J'ai pas vu un Liverpool conquérant qui méritait quoi que ce soit.
Mais de toute façon, on pouvait pas s'attendre non plus à un Liverpool en mode Liverpool de l'année dernière.
De la grande époque, de la grande époque, oui, de l'année dernière, comme tu dis. C'est un Liverpool qui va mal. Mais dans ce match-là, j'ai trouvé qu'ils avaient été plus sérieux, plus disciplinés, ce qui leur a permis certainement de gagner justement 2-0 face à Leipzig.
Et tu vois, on peut dire la même chose du coup du match de Liverpool. On peut faire un petit pont avec le match contre Everton, le derby qu'il y avait eu ce week-end, où aussi ils ont eu des occasions Liverpool. Et cette fois-ci, c'est eux qui les ont pas mis au fond. Salah, je crois, et Mané se sont heurtés à Pickford plusieurs fois. Et derrière, Everton a eu la chance justement de mettre ce but très vite par Richarlison. Mais effectivement, il y a quand même eu une grosse domination des Reds.
À 71%, voilà.
Et au final, derrière, si on regarde les stats, on les a sous les yeux. Le match contre Everton aussi est surprenant parce que les stats ne reflètent pas le score. Mais quelque part, bah, c'est ça, il faut savoir marquer.
C'est le football, c'est sur des détails.
C'est les détails.
Oui, mais là où je vous rejoins, c'est le football, certes, mais comme on voit l'émergence des expected goals, je vous en avais parlé, notamment c'est au travers du livre que Kevin m'avait offert qui commence à en parler, c'est rigolo.
D'ailleurs, il y en a un que j'ai volé à Kevin, j'ai toujours pas rendu, j'en ai pensé.
Ouais, faut que tu me rendes la Bible de Daniel Riolo.
J'ai cru que Kevin, c'était la bibliothèque municipale. Ça fait 8 mois que j'ai le livre, je l'ai pas rendu, il y a la petite gommette marquée.
Je vais te mettre en demeure, fais gaffe.
Je vais recevoir un courrier recommandé. Bon, messieurs, il faut qu'on parle aussi du match et de Porto. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Kevin, là, sur la Juventus de Turin qui a sombré? C'était le néant. J'ai trouvé que c'était le néant.
Non, mais t'as tout à fait raison. C'est le néant. Alors, comme d'hab, est-ce qu'on parle des absents? Est-ce qu'on parle du pénalty? Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que pour parler des absents...
On peut en parler, ça aurait pu changer. Par contre, ils ont fait une piètre prestation.
Mais oui, mais c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que si tu joues bien, que tu perds sur des coups du sort et que tu te dis oui, mais avec peut-être les absents, avec Arthur, avec Dybala, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Oui, mais je suis désolé, contre Porto, avec cet effectif-là, tu dois pouvoir faire beaucoup mieux. Et ne serait-ce que déjà, sur ce que tu montes sur le terrain, la première mi-temps a été insipide au possible. Moi, j'avais envie de pleurer. C'était un remake pour moi du match contre Lyon l'année dernière où on n'a pas d'idée. Il se passe rien devant. On inquiète. On peut même pas dire que Porto a été solide. Porto a décidé de jouer le pressing sur 99% du terrain et ça a marché. Mais derrière, on peut pas dire que la Juve a vraiment inquiété Porto, ni même a cherché à inquiéter Porto, à part peut-être à la fin. D'ailleurs, on a vu le but de la Juve, c'est le seul dédoublement qui se passe sur le côté avec Rabiot qui déborde. Voilà. Et derrière. Derrière, ça fait but. Heureusement que ce but nous maintient un peu en vie et qu'on peut.
C'est peut-être ce qui va tout changer.
Ouais, mais tu sais, on disait pareil
ce
avec.
Ce qui peut tout changer.
On disait pareil, je disais pareil l'année dernière avec Lyon. J'étais persuadé que la Juve sur le match retour pouvait renverser la situation. Au final, quand je vois les prestations, c'est triste. Après, encore une fois, je vais me répéter. Je pense vraiment que le 4-4-2, c'est pas adapté pour la Ligue des Champions. C'est du moins ça dépend ce que tu veux faire. Pirlo, en fait, il a pas compris que le 4-4-2, c'est un schéma qui est plutôt à vocation défensive ou de peut-être de contre, mais pas
de subi,
mais pas d'une équipe qui essaye de faire le jeu et d'occuper la largeur et tu peux occuper la largeur, mais le problème c'est qu'au milieu de terrain, il te manque du monde là. Quand t'as deux joueurs au milieu de terrain, c'est très compliqué face à une équipe qui est très regroupée derrière. Donc tu peux pas. Le 4-4-2 c'est pas possible. Ou alors il faut changer de philosophie. Il faut se dire ok, on leur laisse le ballon et nous, en fait, on fait le dos rond et derrière on joue sur la vitesse. Mais c'est pas le cas. Donc pour moi, il y a un petit peu un non-sens qui se fait tactiquement à la Juve en ce moment. On verra. Il y a un match déjà ce soir contre Croton là dans quelques heures. On va voir, il y a beaucoup d'absents aussi. Mais contre Croton, bien évidemment, même sans les absents, tu dois pouvoir gagner.
Messieurs, le match qui nous intéresse sur le sol français, c'est le Paris Saint-Germain qui est allé s'imposer 4-1. Un Paris Saint-Germain des grands soirs, un Paris Saint-Germain grandiose et un Kylian Mbappé exceptionnel, messieurs.
Ouais, c'est extrêmement compliqué de parler maintenant avec le match de Monaco d'hier. C'est
vrai que tu l'occultes.
Non, mais c'est très compliqué de l'occulter. Tant hier, ça a été insipide et triste, mais bon, je vais quand même essayer de me focaliser et d'être objectif sur ce match face au Barça.
Relis la conversation que tu nous avais envoyée.
Ouais, alors bon, pour moi, ce match, ça a été un match référence, vraiment, comme on les cherche, comme on les veut. Paris a su mettre les ingrédients. On avait des interrogations, des inquiétudes avant le match, forcément, parce que au moment du tirage, le PSG était archi favori. Entre-temps, il y a le Barça qui enchaîne une série de 7 victoires sans défaite, avec seulement le faux pas à Séville. On se dit que, bon, en plus, ça joue le match aller au Camp Nou. Devant, il y a quand même un Dembélé qui a retrouvé ses jambes, un Griezmann et un Messi qui arrivent à jouer ensemble. Donc, c'est vrai qu'au départ, et d'ailleurs, les cotes s'en ressentaient, on avait une cote avant match de 1,40 sur la victoire du Barça et de 4,20 sur la victoire du Paris Saint-Germain. Donc on voyait bien que la tendance en fait en termes de favoris c'était équilibré voire inversé.
Mais je pense que pour tous les matchs, excuse-moi je te coupe mon Pierrot, sur tous les matchs de ce qu'il y a eu sur les quatre matchs de cette semaine, toutes les tendances se sont inversées. On voyait Liverpool très mal et Séville qui marchait bien, ça a été l'inverse. On voyait le PSG piétiner en Ligue 1 et le Barça retrouver des couleurs, finalement il n'en a rien été. C'était quoi l'autre match? Dortmund qui avait aussi du mal. finalement qui gagne. C'est pour moi, ça a été, puis la Juve, on n'en parle pas, mais c'était ouais, totalement.
Je vais résumer en disant sale semaine pour les parieurs.
Ouais, c'est ça, totalement.
Et bon Dieu merci, j'avais pas parié cette semaine, sinon je pense que j'aurais eu des différends avec ma femme ce week-end. Non mais tout ça pour dire que sur le reste, bah, le match du Paris Saint-Germain a fait un super match. Ce que j'attendais a été confirmé, c'est ce que je disais en avant-match. Je disais j'attends que la doublette Paredes-Verratti puisse montrer au monde entier à quel point ils sont aujourd'hui complémentaires et vraiment au top niveau d'un top milieu de terrain qui nous a fait défaut sur ces dernières années au Paris Saint-Germain. Verratti était attendu au tournant parce que 28 ans, parce que voilà, il était temps qu'il révèle au monde son potentiel sur un match référence, c'est ce qu'il a fait, surtout en l'absence de Neymar. Verratti a été extrêmement intelligent, il est d'ailleurs passeur décisif, il a fait un match avec un volume de jeu stratosphérique. Et Mbappé, que dire d'Mbappé, parce que c'est forcément avec un triplé en Ligue des Champions, un des grands artisans, le grand artisan de cette victoire. D'ailleurs, j'aime bien rappeler cette anecdote. À l'entraînement, juste avant le match, Mbappé est allé voir Pochettino en lui demandant combien de fois il avait gagné au Camp Nou. Alors Pochettino lui a dit bah, « j'ai gagné une seule fois au Camp Nou ». Et Mbappé lui a répondu « ce soir, ça fera deux ». Et c'est pour ça qu'il rigolait à l'entraînement en reparlant de ça. Et Pochettino a dit « Mbappé, oublie pas ce que tu m'as dit ». Mbappé a pris ses responsabilités, il a fait un match énorme avec un volume de jeu très intéressant qui en plus, Mbappé, on ne va pas se mentir, on ne va pas être chauvin, la situation dans laquelle évolue aujourd'hui le Barça avec une défense qui est amoindrie et avec un Piqué qui jouait sur une jambe, forcément a mis encore plus en lumière les atouts physiques et athlétiques d'un Mbappé qui derrière a été très juste devant le but, c'est la seule chose qui lui manquait sur ces dernières semaines et a permis au Paris Saint-Germain d'avoir une victoire historique, parce que depuis le FC Metz dans les années 80-90, ce n'était pas arrivé, de gagner au Camp Nou. Donc, chapeau 84. À cette équipe du Paris Saint-Germain, voilà, qui m'a régalé vraiment, qui m'a régalé et qui a régalé tout le monde. Et pour la petite anecdote, il y a eu un pic d'audition à 1,5 million de téléspectateurs aux États-Unis pour un huitième de finale de Ligue des Champions. C'est historique, ça bat quasiment de deux fois le précédent record, je crois, qui était détenu par un match du Barça. Donc, c'est juste stratosphérique. Et j'espère que l'onde de choc est pas prête de s'arrêter.
Ouais, moi je trouve qu'il faut nuancer aussi parce que le Barça, enfin défensivement, c'était catastrophique. Je sais pas comment dans la tête de Coman, il peut titulariser Piqué et penser que ça va fonctionner. Parce que l'anglais, c'est pas Speedy Gonzalez. Piqué, déjà, il avance pas. Mais alors là, c'était sûr que sur une jambe, ça marcherait pas. Face à trois attaquants qui sont quand même jeunes, qui sont vifs,
très rapides. D'ailleurs, la presse espagnole l'annonce direct. Hein. En avant-match, elle dit, mais pourquoi ils font un cadeau au Paris Saint-Germain. Ils parlent de cadeau pour la titularisation de Piqué.
Ah, mais pour moi, personne n'a été au niveau. Alba derrière, c'est très faible. L'anglais, il a été nul. Et encore ce week-end, il a encore offert un but à le penalty à Cadiz. Là aussi, pareil. C'est une tristesse infinie. Piqué qui a été dépassé, qui peut plus jouer titulaire dans une équipe comme ça. C'est plus possible. Pas dans ces conditions-là. Dest, le pauvre à droite. Il a complètement été mangé par Mbappé. Derrière, le milieu de terrain, Busquets, c'est l'ombre de lui-même aussi. C'est pareil. Bah forcément, bah quand tu te retrouves avec 5-6 joueurs pas au niveau et surtout face à une équipe du PSG qui un milieu de terrain, effectivement, comme l'a dit Pierre, Paredes, Verratti, ça fonctionne pas trop mal. Bah forcément, tu prends l'eau. Alors après, j'entends, et ça, c'est ça qui m'énerve aussi un peu quand on parle de foot en France, c'est que le PSG, personne ne les voyait très bien cette saison, ils se faisaient un peu tirer dessus dans tous les sens depuis quelques semaines parce que les performances n'étaient pas au niveau, et c'est vrai. Et là, un match et tout change. De nouveau, Mbappé qui se faisait critiquer pendant des mois est devenu le nouveau Messi. Et là, maintenant, ça y est, tout le monde dit que Verratti, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et ça y est, le PSG est renouveau lancé pour la finale. Oui, bon, très bon match face à un piètre Barcelone aussi, même si c'est pas évident d'aller gagner au Camp Nou et c'est pas donné à tout le monde. Il faut rendre hommage au PSG pour cette belle performance, mais restons prudents, arrêtons de nous enflammer, que ce soit avec le PSG, avec Mbappé. On le sait très bien en plus comment ça va finir l'histoire, c'est que déjà Verratti, On n'avait plus vu ce match-là depuis le match contre le Barça aussi il y a 4 ans, où il y a, avant la remontada, où ils gagnent 4-0 au Parc. Mais depuis 4 ans, Verratti, c'est quand même vraiment très irrégulier. Et puis on le sait de toute façon que Verratti, il n'est pas capable de te faire 20 matchs comme ça dans la saison. Il va t'en faire un ou deux de temps en temps. Moi, j'aurais préféré qu'il le fasse un peu plus tard, quand ça aurait vraiment servi quelque chose face à une grosse équipe. Et on verra si face à une équipe plus solide derrière, avec un milieu plus en confiance, avec des joueurs plus haut niveau, on verra si Verratti est si bon. On verra si Mbappé brille de mille feux. On verra. Moi, je demande toujours à voir. Et je mettrai.
Il y a besoin de confirmation.
Pour
face
moi,
à des
c'est
grosses
encourageant.
Équipes.
Encourageant. Mais attention. Attention au revers de la médaille, attention au match retour quand même, attention surtout face aux équipes, on l'a vu ce week-end en plus, attention face aux équipes qui sont mieux organisées, qui sont calibrées entre guillemets, ou qui se auto-calibrent pour faire face aux assauts parisiens, attention à tout ça.
Ouais, mais faut pas oublier une chose, c'est quand même que sur l'avant-match, et j'ai pas la mémoire courte, vous êtes nombreux à m'avoir vanté les mérites de ce milieu de terrain qui était largement, soi-disant, sur le papier au-dessus du Paris Saint-Germain.
Non, c'est pas ce qu'on a dit.
Avec Pedri, avec Busquets, avec De Jong.
C'est pas ce qu'on a dit.
La conversation.
Ce n'est pas ce qu'on a dit, Pierre.
Busquets est de retour. De Jong, il est stratosphérique.
Eh ben oui, De Jong, il était très bon. De Jong a été très bon.
Pedri, c'est une pépite à la.
Mais Pedri, il a 5 matchs en Ligue des Champions, Pierre. Tu peux pas non plus lui reprocher de pas avoir été bon. Alors que derrière, t'as Busquets qui met pas un pied devant l'autre et qui va à deux à l'heure. Et que derrière, t'as Piqué, c'est plus un défenseur. C'est un plot, un contre-pied.
Kevin, des joueurs comme Mota ont été des joueurs qui ont toujours marché à deux à l'heure, tout comme des.
Mais c'est pas pareil. Tu vois bien que Busquets, il fait plus rien sur le terrain. Avant, c'était lui le relanceur, c'était lui qui dictait le tempo, c'était lui qui donnait les ballons.
Bah, c'est pas ce qu'on m'a dit avant le match. Avant le match, je te remontrerai.
Non, on a dit que le Barça donnait. On va quand même pas rappeler Kélian quand même pour arbitrer, parce que Kélian lui-même, il le dit aussi. Il a dit attention quand même, ce Barça, face au gros. C'était pas ça non plus. Tu l'as dit en plus en intro, parce que le Barça avait gagné quasiment tous leurs matchs sauf à Séville. Donc c'était justement un petit peu. Ils avaient gagné contre Alavés le week-end d'avant. Alavés, une équipe quand même qui est très faible. On s'est dit ok, c'est encourageant. Et d'un côté, mais je te rappelle qu'il y a 3 mois, on n'avait pas cher de la peau du Barça non plus. Hein. On en parlait, on disait quand il y a eu le tirage, on disait que le Barça, s'il continuait à jouer comme ça, ils allaient prendre une valise contre le PSG.
Je te parle de l'actu de l'avant-match.
Mais même donc là, on se disait que ça rajoutait, ça rééquilibrait un peu les forces, et que si le Barça arrivait à être costaud et à avoir le ballon au milieu de terrain. Ça risquait effectivement de donner une rencontre plus équilibrée.
Tu peux pas me dire que ça rééquilibrait les forces. Ne serait-ce que les cotes, je te les redonne. 1,40 victoire du Barça, 4.
Mais je m'en fous, je suis pas bookmaker, moi, Pierre.
Les pronostiqueurs.
Mais je ne suis pas bookmaker, moi, je m'en fous des cotes.
Que ce soit les pronostiqueurs ou que ce soit même les presses, que ce soit les presses allemandes, que ce soit les presses espagnoles ou anglaises, tout le monde donnait le Barça large vainqueur du Paris Saint-Germain. Alors, ne dis pas après coup que le Paris Saint-Germain a battu une très faible équipe du Barça.
Mais c'est vrai.
Venir.
Mais c'est la vérité. Melvin, toi qui es fan du Barça, interviens s'il te plaît. Parce que...
Non, mais je pense que ce qu'il dit Kevin, il a pas tort. Vous partagez peut-être pas le même avis. Il y a une chose qui est importante à prendre, c'est que le Paris Saint-Germain a fait un match exceptionnel. D'accord, il faut le retenir, il faut le dire, avec un match Mbappé exceptionnel également, mais face à une équipe du Barça, effectivement, qui ne reflétait pas ce qu'ils avaient fait sur les dernières semaines. Voilà, maintenant, il ne faut pas s'enflammer, c'est ce que dit Kevin. Bien sûr que c'est une belle prestation, maintenant, il va falloir confirmer, face à des équipes peut-être plus aguerries, qui seront au rendez-vous au jour J, ce qui n'a pas été le cas du Barça. Voilà, je pense que c'est ce qu'a voulu dire Kevin dans sa chose. Ça n'enlève en rien le mérite du PSG sur sa victoire.
Moi, j'ai pas de...
Par contre, il faut un jour qu'on se mette d'accord sur ce débat, qui est un peu aussi un débat stérile. C'est, ça veut dire quoi quand on dit une équipe est passée à côté ? Quelle est la proportion du fait que le Barça était moins bon ou que le Paris Saint-Germain est surclassé?
Mais c'est
à
super
Barcelone,
compliqué. Voilà.
Il était bon.
C'est ça, super compliqué. C'est super
hier,
compliqué, effectivement.
Est-ce que c'est le Paris
Saint-Germain, comme la VAR, c'est à l'appréciation.
Passe à côté de son match? Est-ce que hier c'est le Paris Saint-Germain qui passe à côté de son match? Ou est-ce que c'est une victoire exceptionnelle de Kovac qui a monté une équipe qui a juste contrecarré tous les plans du Paris Saint-Germain et qui a
annulé
les forces du Paris Saint-Germain?
Je trouve que
c'est là en fait où la limite elle est.
Je trouve que le match du Barça a été plus catastrophique que le match du PSG hier. Donc le PSG fait pas forcément un mauvais match, ils ont été complètement piégés par le système mis en place par Kovac qui fait le coup parfait. Peut-être que s'il le rejoue deux fois le match, le deuxième fois il fait pas le coup parfait, parce que c'est des coups souvent que tu fais qu'une fois. Mais c'est la réalité. Pour moi, le Barça a été au moins autant à la peine que le PSG a été héroïque. Et moi j'attends de voir ce PSG un peu comme face à l'Atalanta l'année dernière, où on avait dit effectivement qu'ils avaient fait une prestation sérieuse avec un joli mental face à une équipe qui les a fait douter. Bah, là, j'attends le même type de match référence cette année pour le PSG, pour pouvoir qu'on puisse se dire, est-ce que le PSG va pouvoir la gagner cette année ou pas ? Pour l'instant,
je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je le mettrai à titre d'exemple quand même, parce qu'il est intéressant de le faire. Et vous allez me dire, c'est peut-être pareil pour d'autres clubs, ce n'est pas vrai. Systématiquement, à chaque épopée européenne de ces dernières années, alors c'est peut-être fait par le traumatisme de la remontada, mais à chaque fois que le PSG se présente face à une équipe, à chaque fois, que ça a été contre Leipzig, que ça a été contre l'Atalanta, Manchester United au match retour cette année, face au Barça l'avant-match, le PSG est toujours donné perdant, largement derrière.
Mais c'est pas vrai.
Avec aucune chance.
Mais regarde nos pronostics, Pierre. Les pronostics qu'on a fait, c'est un peu ce qu'on pensait. Moi, je pensais pas que le PSG allait se prendre une valise. Je me suis dit, ça, si le Barça joue et retrouve son niveau et c'est la Ligue des Champions, ils peuvent un peu à l'image de Liverpool, un petit peu se redorer leur blason. Bah, c'est le moment. Et peut-être que le PSG, bah, qui ne roulait pas non plus sur la Ligue 1 et qui avait même pas les performances suffisamment encourageantes pour pouvoir se dire qu'ils allaient faire ce type de résultat là-bas. Même toi, tu l'avais pas prédit ce résultat. Donc tu peux pas non plus sur les résultats. Moi je pensais vraiment que ça allait finir sur un nul parce que je me suis dit on est face à deux équipes qui ne sont pas encore au point d'un côté comme de l'autre. Là pour le coup je pense que là où je me suis trompé c'est pas sur le PSG, je me suis trompé sur le Barça que je pensais vraiment entre guillemets meilleur et qui m'a fait défaut. Maintenant si au retour le Barça fait un très bon match. Arrive à être solide et à jouer, mais que ça n'empêche pas le Paris Saint-Germain de gagner 2-0 au Parc, là je te dirais Pierre, ok, là super, ils ont gagné les deux matchs aller-retour contre le Barça. Je suis pas sûr qu'on en retrouve beaucoup des équipes qui gagnent aller-retour sur un match à l'élimination directe contre le Barça, et en plus de ça ils se sont imposés face à une équipe qui était en bien meilleure forme et qui a montré des bien meilleures choses. Je te le dis je tiendrai mon engagement, j'applaudirai dès demain le PSG sur le match si c'est ce qui arrive. Mais j'ai des doutes.
Messieurs, on va quand même parler des matchs de cette semaine parce que c'est important aussi. Il y a des gros matchs qui se jouent cette semaine puisqu'on a déjà, je ne sais pas si ça va être un match équilibré, la Lazio de Rome face au Bayern de Munich. Pour moi, ça me semble être un match à contresens avec un Bayern qui est trop énorme.
Mais en plus, c'est ça qui m'énerve, c'est que maintenant, avec tout ce qui s'est passé le week-end dernier et la semaine dernière, tu veux dire, rien n'a de sens. La Lazio joue très bien. En ce moment, c'est l'équipe qui a la meilleure série en Serie A. Le Bayern de Munich vient de perdre 2-1 à Francfort, qui est, je crois, 14e de Bundesliga. Bien évidemment que si les deux équipes jouent à leur niveau, le Bayern devrait s'en sortir tranquillement. Mais il y a toujours une espèce de doute. L'Atlético vient de perdre contre une équipe aussi pareille, je ne sais même plus.
Atlético Madrid-Chelsea, hein, on le rappelle.
Ouais, Atlético a perdu contre Levante, 2-0, chez eux. Non, mais... Et derrière Chelsea qui vaut pas une thune avec Thomas Tuchel pas plus qu'avec Frank Lampard,
c'est faux ça.
Bah si c'est.
Bah 7 matchs, 5 victoires, 2 nuls.
Ouais, mais ils viennent de faire un nul tout pourri
oui,
là,
mais
ils ont pas
été bons. Son bilan il est quand même positif pour l'instant.
Ouais, je suis plus d'accord avec Madine sur l'analyse de Chelsea, mais là où ce que dit Kevin est intéressant, c'est que l'Atlético et d'ailleurs le Barça a témoigné, le Real et le Barça sont revenus à 6 points. L'Atlético qui a fait une première phase aller historique est en train de se prendre les pieds en 2021 et a laissé partir, je crois, 7 points.
Et la Liga vaut pas un caramel. Ils ont pas de niveau dans ce championnat. Non, mais c'est vrai, de niveau dans ce championnat. On a l'impression que tout peut arriver à tout moment. Donc
qu'on fasse quand même nos pronos parce qu'il faut qu'on avance quand même.
Le Real Madrid qui joue contre l'Atalanta, ça va être un match intéressant, ça.
Ouais.
Match très intéressant.
Ouais, il va y avoir des buts.
Et le Borussia Mönchengladbach face à Manchester City. Là, c'est pareil. Je crois que Manchester City, cette année, c'est vraiment un ogre. Ça va être très, très difficile pour les Allemands.
Est-ce qu'on évite de
pronostiquer Gladbach, ils viennent de perdre en plus ce week-end. Hein ?
On évite peut-être de pronostiquer pour le coup.
Allez, on va pronostiquer tout d'abord l'Atlético Madrid face à Chelsea, messieurs. Ça se joue à l'Atlético. C'est donc demain à 21h. Mon Pierrot, ton pronostic ?
Moi, je dirais 2-1. 2-1 avec un but de Suarez.
T'es noté, mon Kevin ? En ce qui me concerne, moi, je dirais 2-2. Giroud, tiens, il va marquer le deuxième but de Chelsea.
Et moi, je vais mettre 1-0 et je ne mets pas de buteur.
Messieurs, deuxième match. Atalanta-Bergame, Real de Madrid.
Moi, je dirais un match. Je vois bien un match avec des buts. Je suis assez d'accord avec vous. Je vois bien un match qui se termine à 2-2 avec un but de Benzema.
Et bah pour moi, ça sera 1-1.
Mais lui, il voit des nuls de partout, lui.
Et toi, mon Kevin ?
Ah, je vois bien le Real gagner 3-2, moi.
3-2, très beau score.
C'est le pronostic sur lequel j'hésitais.
Et ouais, 3-2, et ouais, je vais mettre Benzema aussi.
Et pour la dernière rencontre, messieurs, la Lazio de Rome face au Bayern de Munich.
Moi, je dirais 3-1 avec un but de Lewandowski. Ouais, pour le Bayern.
Ouais, moi, je dirais 2-0 pour le Bayern avec un but de Coman. Ouais, parce que c'est pas truc... grave, il sera sorti du chapeau.
Ouais, moi, je vois 2-0 du Bayern.
2-0.
Et Lewandowski, ouais, bien sûr. Tu mets de qui, de toute façon.
Exactement. Et ben voilà pour les stats, vous les retrouverez sur Facebook.
On se retrouve, on va le publier
dans un instant. RKS. Allez messieurs, on a commencé à l'initier ce duel entre les deux monstros de la jeunesse du football européen, même mondial. C'est Erling Haaland face à Kylian Mbappé. Ils ont ébloui cette semaine en Ligue des Champions. Un peu moins, on en parlera tout à l'heure, Kylian Mbappé en championnat, puisque Erling Haaland a encore fait... un geste faramineux en Bundesliga.
Extraordinaire.
Messieurs, je sais que nos avis sont très partagés, puisqu'une personne est pour Mbappé, une autre est pour Erling Haaland et l'autre est pour Mbaland. Voilà, c'est pas compliqué. Il y avait le FC Disneyland en Coupe de l'UEFA et Mbaland. Voilà, c'est comme ça. Messieurs, pour moi, j'aimerais quand même débuter quelque chose. Pour moi, c'est quand même deux joueurs buteurs, mais complètement à part.
Oui, ils sont pas pareils. Ils ont pas les mêmes caractéristiques. Haaland pour moi me rappelle, alors on parle de Ronaldo, moi je parle plus de Lewandowski qui est plus complet. Oui. Il a juste quelque chose en plus, je trouve, Haaland, par rapport à Lewandowski. Ça veut pas dire qu'il est meilleur, hein, mais il a un truc en plus, c'est qu'il va plus vite. Lewandowski, sa vitesse, c'est pas sa qualité première. Il est très puissant, il est clinique devant le but, il est très bon de la tête, il peut marquer du pied droit, du pied gauche, de la tête, du genou, peu importe, en reprise de volée ou pas. Mais Haaland est plus rapide. Et Mbappé, pour moi, c'est un croisement entre peut-être, je sais pas, des joueurs un peu rapides comme.
Moi, il me fait penser à Bebeto.
Ouais, mais c'est des références que je ne connais pas.
Bebeto sorti du cimetière et Georges Best. Non, mais t'as raison.
Mais c'est un joueur qui va très vite, Mbappé aussi, qui peut être.
Un Thierry Henry, voilà, un Thierry Henry. Il est plus dans ce style.
Ouais, un peu plus, mais Henry,
pour moi,
Henry était meilleur encore devant la cage. Mais ouais, un peu le même principe, joueur qui va très vite, qui peut faire la différence sur son côté en un contre un, qui. Qui est capable de fulgurance.
Mbappé qui a 2 ans de plus quand même hein, que Erling Haaland.
Ouais. Mbappé, c'est plus un mélange entre Mané et Thierry Henry.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Ouais, peut-être.
Non, je suis d'accord avec toi.
On a fait un sondage d'ailleurs sur la story.
Et le résultat alors de
ce le résultat, c'est que Haaland, pour l'instant, est donné gagnant entre guillemets de ce duel à 67%, je crois, contre 33% pour Mbappé. Bon, bien évidemment que c'est pour rire hein, qu'on fait ça. C'est marrant de les comparer. Certains disent ça sert à rien de les comparer. Profitons du fait de les avoir tous les
deux.
Voilà. Bien sûr qu'on profite, mais on peut quand même les comparer et se dire si demain, notamment parce que ça va être un peu l'objet des prochaines semaines et de la prochaine campagne de mercato, si un club comme le Real par exemple doit en recruter un des deux, ce qui semble être le cas, lequel devrait, parce qu'ils pourront pas faire les deux, ça c'est sûr. Lequel pourront-ils acheter? Et moi, je penche quand même sérieusement sur Haaland parce que je préfère son état d'esprit, parce que je préfère son côté tueur, parce que je trouve
il a un peu de Zlatan. Il me fait pas.
Oui, oui,
dans
mais c'est un peu le même profil.
Voilà,
oui, oui,
c'est un peu ça.
Mais il est extrêmement, il est rapide. Moi, je trouve que quand il est lancé comme ça, il est grand. On a l'impression que c'est une armoire. Je le trouve la reprise de volée qu'il met contre Schalke ce week-end. Moi, j'ai analysé un peu le geste. Il saute au moment parfait.
Juste.
Il frappe le ballon au moment parfait. Et parce que on le voit, hein, il rate pas du tout le ballon. En plus, il le fouette vraiment au moment où il est face à lui. Et c'est un très très bon but.
Comme dirait le petit Larousse, c'est Zlatanesque.
Ouais, tu parles.
Mon Pierrot, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Tu l'as dit plusieurs fois. J'ai l'impression qu'en fait la différence, elle se fait sur un Erling Haaland qui est imprévisible et un Kylian Mbappé qui fait les choses très bien, mais qui est prévisible.
Ouais, c'est vrai. Bah, disons qu'Haaland, il a, comme tu le disais à juste titre, il a 2 ans de moins, il a que 13 matchs en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il est connu de tous et il a des statistiques qui sont extraordinaires. mais on n'a pas encore la même lecture qu'il peut avoir parce qu'il est encore dans une phase d'ascension. Mbappé, on sent qu'il se base maintenant sur des valeurs refuges, sur des choses qu'il soi-disant maîtrise sur le papier. Et il revient très souvent à ses mouvements, ce passement de jambes, cette fixation à l'entrée de la surface quand il passe entre deux joueurs. On commence à connaître que le registre de Mbappé, malheureusement, il a ses limites. Bon, là, il essaie de se renouveler avec des frappes à l'extérieur de la surface. Mais on voit qu'aujourd'hui, à Lens, on a vraiment l'impression que cette palette, que chaque jour, il découvre une nouvelle couleur. Et où physiquement, athlétiquement, ce mec-là, on a l'impression qu'il n'a aucune limite. Il le disait à juste titre, Kevin, ce mec-là, quand tu le regardes physiquement, c'est une machine de guerre. J'ai regardé le résumé de Dortmund qui jouait là ce week-end. Ce mec-là, bon, il jouait contre pas l'équipe de Schalke, qui est dernière de Bundesliga, mais néanmoins, il y a un moment notamment où Haaland part du milieu de terrain, il se fait mais cisailler par deux tacles glissés où les mecs ils veulent lui emmener les deux chevilles et le mec il tombe pas quoi.
Mais pourtant, il marque.
Ça tape dans la cheville, il tombe pas, le gars il tombe pas quoi, il reste solide sur ses appuis, il enchaîne.
Il fait plier quand même Séville qui a une super défense cette année avec Koundé et Diego Carlos, c'est quand même pas rien. Il les a explosés physiquement. Ils ont rien vu venir les deux. C'est pour moi, j'ai l'impression que quand sans dire de faire une phrase trop religieuse non plus, mais j'ai l'impression que la personne qui a créé Haaland, elle s'est dit ok, on a fait Lewandowski, c'était bien. On a fait Zlatan, c'était bien aussi, mais on va faire mieux encore. Bien évidemment que. Alors, j'entends et je trouve que c'est nul, d'ailleurs, ces phrases-là sur Facebook. Oui, bah, quand Haaland aura gagné la Coupe du Monde, peut-être qu'il sera au même niveau qu'Mbappé.
Il ne la gagnera jamais avec la Norvège.
Il ne peut pas la gagner
mais
avec la Norvège.
Mais comme la gagnera jamais.
Mais on ne peut pas non plus, aujourd'hui comparer Mbappé, bien évidemment qu'il a du talent. Il n'aurait jamais rien fait sans ce talent-là. Mais bon, on ne peut pas non plus dire bah, Mbappé, il a gagné la Coupe du Monde à 21 ans. Oui, dans un effectif super.
Exactement.
Voilà. Mais Haaland, il a 2 ans de moins déjà. Mbappé, il y a 2 ans, ouais, il a gagné tout juste la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, je suis sûr que tu mets Haaland en équipe de France, il la gagne pareil, la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe là, en 2021. Donc, faut arrêter de faire ces comparatifs-là. Regardons ce qui se passe sur le terrain. Il y en a un qui a choisi la facilité en allant signer au Paris Saint-Germain dans un effectif pléthorique et une Ligue 1 qui, jusqu'à très récemment, était d'un niveau très faible et qui n'a jamais eu besoin d'être au top de sa forme pour marquer 15-20 buts en Ligue 1. Et il y en a un autre qui a choisi de jouer Dortmund, qui n'est pas une petite équipe, mais qui est quand même dans l'ombre du Bayern, qui en Ligue des Champions est très loin d'être une équipe souveraine et qui s'est toujours débrouillé. Il joue à Salzbourg, il colle, je crois, 10 buts sur la phase, où, avant de rejoindre Dortmund, il colle, je crois, 10 buts sur la phase de groupe. C'est énormissime, on ne se rend pas compte de la capacité que peut avoir ce garçon. Et psychologiquement, il a l'air... Il a l'air plus stable que Mbappé. Je dis bien, il a l'air
plus fort, moi, je dirais.
Si on veut, pour simplifier, je suis d'accord que le débat, tu ne peux pas comparer les deux joueurs parce qu'ils n'évoluent pas au même poste. Pour moi, c'est des joueurs qui sont compatibles, qui peuvent jouer ensemble, mais tu ne peux pas comparer avec un numéro 9 avec un ailier. Mbappé, pour moi, aujourd'hui...
Mais Mbappé, il se croit numéro 9, lui, c'est ça le problème.
Non. Mbappé,
bah oui,
on l'a vu.
Il se croit numéro 9, je te le dis, Pierre.
On l'a vu à l'époque où Cavani n'était pas là. Quand on a essayé de faire évoluer Mbappé en 9 ou à la place d'Icardi, ça ne fonctionne pas. Mbappé, il n'a pas la corpulence, il n'a pas le physique, il n'est pas suffisamment athlétique pour servir de point d'appui. Il est trop limité dans sa palette de jeu et aller chercher systématiquement dans la profondeur, ça demande d'avoir des milieux de terrain qui te donnent des caviars tout au long du match. Et ce n'est pas suffisamment. Mbappé, il aime toucher des ballons. Il ne peut pas être numéro 9. Pour être numéro 9, il faut savoir, comme l'a été Haaland, sur certains matchs, notamment au match retour contre le Paris Saint-Germain, bah quand ton équipe elle a du mal à gagner la conquête du milieu de terrain, bah faut accepter de toucher 10, 12, 14 ballons dans un match. Mais le numéro 9, il sait, il se déplace en fonction. Et par contre,
ça, Icardi, lui, il l'a accepté aussi, de toucher que 2 ballons par match.
Après, regarde, si tu fais une comparaison là, de cette année, la Bundesliga aujourd'hui, Haaland, il est actuellement à 17 buts pour 3 passes décisives. C'est-à-dire qu'il a été 20 fois impliqué directement sur un but de son effectif, quand Mbappé est à 16 buts, mais à 6 passes décisives, c'est-à-dire qu'il est à 23.
22, parce que 16 plus 6, ça fait 22.
Légère devant. On voit par exemple en Ligue des Champions, Mbappé, en Ligue des Champions, est à 5 buts cette année pour 3 passes décisives, c'est-à-dire qu'il est impliqué sur 8 buts directement de son équipe, quand Haaland est à 0 passes décisives, mais sur 8 buts. Donc on voit qu'au niveau des statistiques, ils sont assez proches sur l'implication.
Mais c'est pour ça qu'on s'autorise la comparaison.
Mais par contre, toutefois, avec une certaine nuance, c'est que Mbappé, forcément étant excentré à gauche, parfois il se retrouve passeur plutôt que finisseur. C'est pour ça que je parle plus de deux joueurs qui vont se compléter. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en termes de précocité, en termes de potentiel, les deux joueurs aujourd'hui de leur génération qui sont largement au-dessus, c'est Mbappé et Haaland. Alors la question, lequel des deux est meilleur ? Pour moi, aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'y répondre parce qu'encore une fois, ils sont différents et complémentaires. Il faut quand même prendre une chose en considération par rapport à Mbappé, par rapport au travail qu'il fournit. Mbappé, alors oui, il est champion du monde, Haaland ne pourra certainement pas l'être avec la Norvège, mais Mbappé à Monaco a quand même fait de Monaco champion de France, et c'est Mbappé qui en grande partie tire son effectif. Il emmène quand même Monaco en demi-finale avec un parcours extraordinaire, notamment sur cette victoire éclatante à Manchester City. Donc il gagne avec Monaco devant le Paris Saint-Germain, ce qui était historique. Il part au Paris Saint-Germain, il gagne avec le Paris Saint-Germain, il est champion du monde, il va en finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Quand tu regardes le parcours de Mbappé, quand on parle du Golden Boy, c'est que partout où il gagne, partout où il passe, il gagne. Qu'il soit avec Monaco ou avec une autre équipe, partout où il passe, il gagne et il est impressionnant. Aujourd'hui, à Haaland, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que, alors c'est sûr qu'à Salzbourg, il n'allait pas aller en demi-finale d'une Ligue des Champions, mais il n'a pas su au match retour, mais il est jeune, laissant lui longtemps, mais au match retour contre le Paris Saint-Germain, Haaland a été transparent, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, on voit très bien la situation du Borussia Dortmund en Bundesliga, qui n'est pas non plus la ligue la plus relevée aujourd'hui, même si cette année, ça me fait un peu mentir, parce que c'est une belle ligue quand tu regardes la Première Ligue et la Liga, mais le Dortmund, je crois qu'ils sont en ballotage, ils doivent être 6e de Bundesliga, et malgré le fait qu'ils aient Haaland, qui soit certainement un des jeunes les plus prometteurs, et avec aussi, en termes de caviar, parce que je voulais insister sur ce point et je finirai là-dessus, Mbappé a quand même la chance d'avoir derrière Neymar, Di Maria et Verratti pour le servir. Haaland, faut pas oublier aujourd'hui que s'il a des statistiques comme ça, c'est qu'il a Sancho qui est certainement un des latérales aussi au plus gros potentiel parmi les jeunes qu'on connaît aujourd'hui. Il a aussi Reus qui est Monsieur Caviar. Franchement, si j'avais dû être numéro 9, je pense que 10 fois sur 10 j'aurais choisi Reus pour l'avoir derrière moi. Et il a Kane aussi qui est quand même un bon milieu relayeur. Donc on voit quand même que ces deux joueurs sont mis dans de bonnes dispositions et dans des championnats qui leur permettent de marquer beaucoup de buts, parce qu'on sait très bien que la Bundesliga au niveau défensif, c'est pas exceptionnel, idem pour la Ligue 1.
Messieurs, on va passer justement à la Ligue 1. On va avoir très peu de temps pour parler de la Ligue 1, à peine 3 minutes, donc il va falloir faire très très vite. On a une surprise hein, d'ailleurs sur la Ligue 1, sur cette 26e journée de Ligue 1. On a un invité de marque aujourd'hui qui est avec nous, et on avait envie de lui demander son sentiment, son ressenti sur ce qui se passe en ce moment en Ligue 1. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour. Alors, déjà vous remarquez que j'ai fait des progrès. Maintenant je dis bonjour. Bon, vous n'êtes pas des journalistes, alors ça, c'est plus facile pour moi.
Ah, d'accord.
Mais je dirais que je ne me suis pas vraiment beaucoup exprimé sur l'aventure nantaise.
Vous n'avez pas eu trop le temps peut-être.
Ouais, bon, avouez qu'on s'est quand même déjà bien marré. Hein, je vous ai trouvé dur quand même, parce qu'il y a eu de la progression. Hein, j'ai écouté un peu les émissions, vous avez été dur. Dernière fois, j'ai pas réussi à faire l'entraînement et on a quitté la compétition au bout de trois matchs. Et j'ai pu faire mes séances et on a fait 7 matchs. Donc la progression est là. Hein, mais ce qui est le plus étonnant encore, c'est que j'ai insulté aucun journaliste hein, pendant ce mois de janvier.
Vous avez fait une conf de presse ?
Hein, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais ça a été une belle expérience et ouais, on s'est quand même bien marré. Mais je crois que le plus important, c'est de souligner que je suis l'entraîneur qui bat tous les records, voilà. Et je crois que c'est le bon moment pour demander à Estelle de m'épouser et de me reprendre dans son émission de l'équipe d'Estelle.
C'est la seule chose qui vous reste à faire, vraiment.
Ouais. Alors Estelle, si tu m'écoutes, veux-tu m'épouser et me reprendre dans ton émission ?
Bon, écoutez, on espère que.
Estelle
Denis, merci Raymond d'avoir été avec nous. On va parler, hein, c'est formidable ce Raymond quand même, il est exceptionnel. On va parler rapidement des matchs, hein, des scores, hein, puisque en ouverture de cette 26e journée, Lyon s'est imposé 3-2 du côté de Brest, donc les Lyonnais continuent et se rattrapent de la semaine dernière. Saint-Etienne et Reims ont fait un partout, Nantes et Marseille ont fait un partout également, Montpellier s'est imposé face à Rennes 2-1, Lens s'est imposé face à Dijon 2-1, Lens un cinquième et toujours meilleure équipe promue d'Europe. l'Europe, assez incroyable. Les Messins qui continuent leur petit bonhomme de chemin aussi en s'imposant 2-1 face à Nice, Strasbourg et Angers 0-0. Nîmes qui s'impose face à Bordeaux 2-0. Lille qui continue, j'ai l'impression qu'ils ne vont jamais s'arrêter, les Lillois, en s'imposant 4-1.
Ils ne tremblent pas.
Ouais, ils ne tremblent pas, ils sont sereins, ils continuent malgré...
Pourtant, Lorient, ce n'était pas forcément l'adversaire le plus simple à
aborder. Voilà, exactement. Donc, ils s'imposent 4-1 du côté de Lorient. Et hier soir, pour moi, cette surprise quand même. Un Monaco tactique, un Monaco efficace, un Monaco Kovac qui s'impose 2-0 face à Paris. Un Paris que je n'ai pas trouvé mauvais, mais un Paris que j'ai trouvé complètement bridé,
ouais, c'est ça,
par cette tactique, hein, Pierre.
Ah, le terme bridé, il est très juste, il est très fin, il est magnifique, il est tout à ton image, mon Melvin.
Voilà.
mais que dire de plus, l'AS Monaco a été juste meilleur au niveau stratégique et technique. Je pense que c'est la victoire de Kovac avant tout, c'est celui qu'il faut mettre en avant. Kovac a gagné avec 23% de possession de balle, seulement 240 passes en 90 minutes, avec un bloc équipe en moyenne à 30 mètres de son but, un match digne d'une victoire de Montélimar en Coupe de France.
Montélimar dans le 26, hein, pour les Parisiens qui nous écoutent. Hein.
Non, mais au niveau comptable, que dire de plus ? Je veux dire, c'était affligeant, 69% de passes réussites. Je pense que même Nîmes et Dijon n'ont pas fait ça cette année.
Et ça confirme juste que le PSG n'a aucune inspiration quand Verratti n'est pas là, quoi.
Et voilà, par contre, voilà, il y a eu deux faits de jeu. Je pense qu'il y a déjà la stratégie qui a été payante. Un but très tôt dans le match, Kovac ne pouvait pas rêver mieux. Et derrière, bah écoute, au niveau comptable, c'est du football. Ce qu'ils voulaient, c'est prendre les trois points et recoller. Ils ont gagné. Félicitations à l'AS Monaco. Et par contre, là où Kevin a raison, c'est que quand Neymar n'est pas là, Verratti est roi. Quand Neymar et Verratti ne sont pas là, et ben le Paris Saint-Germain, c'est le néant au niveau jeu, au niveau tactique, au niveau construction. Il n'y avait rien. Et d'ailleurs, c'est dans ces moments-là où, en général, les stars des joueurs, Mbappé qui recule, qui est suffisant, qui refait ses battements de jambes et qui n'est pas inspiré.
En tout cas, si Icardi continue d'avoir cet apport-là, moi, je me pose vraiment des questions sur son avenir au PSG. Il y a quand même eu 60 millions d'euros qui ont été investis sur lui, plus le salaire, plus le prêt l'an dernier. C'est quand même si le PSG compte pas vraiment ses sous, c'est quand même une somme. Parce que l'année où ils prennent Icardi cette année, d'ailleurs ils font pas non plus un gros recrutement parce qu'ils savent que la balance doit être équilibrée pour le fair play financier. Moi je donne pas cher de la peau de Icardi si ça continue. En tout cas il va y avoir une vraie question qui doit se poser dans la tête de Leonardo parce que Keane enchaîne les bonnes performances, il est là. Il a envie, je pense, aussi de rester au PSG, mais Icardi, lui, ne sert à rien, ou du moins, soit il n'est pas utilisé correctement, soit il sert à rien. Je sais pas. Je me demande si c'est vraiment
ça paraît compliqué.
Si c'est vraiment lui dont le PSG a besoin.
Bon, après, pour le fait de garder Keane, on parle d'un montant maintenant demandé par Everton suite aux prestations de
Keane. Ah, mais vous ont vu arriver, hein.
De 80. De 80 à 90 millions d'euros,
ouais.
C'est quand même assez rigolo. Ouais, je pense que le rire de Melvin...
Non, c'est moi.
Prochaine fois que tu me mélanges avec Kevin, ça va.
En dit long sur l'aberration, mais à ce prix-là, Leonardo ne le prendra pas.
Messieurs, on va d'abord quitter Pierre, hein, puisqu'il va faire place à notre invité du jour.
Et oui.
Mon
Pierrot, Pierre.
On se retrouve la semaine prochaine.
Allez, au plaisir. À bientôt et bonne soirée.
À la semaine prochaine, mon Pierrot. Et ouais, justement, on va parler Ligue 2 dans un instant mais qui connaît mieux ce club du GF38, notamment avec Biagi Kamisoko, mon Kevin, qui sera notre invité.
Et ouais.
Dans un instant.
Le RKS Foot Time Show.
Le RKS Foot Time Show.
Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Et oui, nous voilà de retour dans le RKS Foot Time Show. Après avoir parlé de la Ligue des Champions, avoir parlé de la Ligue 1, du duel entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, on va bien sûr parler Ligue 2 et notamment du GF38, hein, puisque le GF38 s'est imposé avec caractère, avec qualité du côté de Nancy 2-1, ce qui permet au GF38 de vraiment recoller à ce haut de classement, hein, puisque les Troyens ont 52 points, les Clermontois 49 points, Toulouse 49 points également, et le GF38 qui est quatrième avec 48 points, qui creuse l'écart vraiment avec le Paris FC, puisqu'il y a maintenant 7 points d'écart entre les deux. Et qui mieux que Biagi Kamisoko, notre invité du jour, peut nous parler du GF38 qu'il a si bien connu avant le dépôt de bilan. Il y a été également aussi après le dépôt de bilan du côté du GF38. Salut Biagui.
Salut à tous.
Salut Biagui.
Comment tu vas Biagui?
Ça va.
Tranquillement. Comme un lundi.
Comme on va dire un retraité du football.
un jeune retraité.
Oui, on peut dire ça comme ça. Bon. Même si ça fait maintenant 5 ans que j'ai arrêté, on essaye de tourner la page, on va dire.
C'est sûr que tu as quand même eu une longue carrière, hein, parce qu'on le rappelle, hein, tu as été formé au GF38.
Oui.
Tu as été formé au GF38, tu y as joué plus de 154 matchs entre 2003 et 2008. Oui. Tu es parti après, tu as fait du côté du stade de Reims, tu as joué également à Vannes, du côté de Fréjus-Saint-Raphaël, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et puis, tu es revenu après le dépôt de bilan du côté du GF38.
Voilà, pour fermer la boucle.
C'est plutôt pas mal.
Oui, c'est plutôt pas mal, même si quand on est joueur, on espère jouer le plus longtemps possible. Après, il y a des concours de circonstances qui ont fait que moi, je pense que j'aurais pu jouer quelques années en plus et que j'ai dû arrêter malheureusement sur des répétitions de blessures qui ont fait que...
Oui, parce que t'arrêtes jeune quand même.
Oui, c'est clair. Mmh. Bah, à ma sortie du GF38, j'ai eu 2 ans de rééducation pour me remettre physiquement et malheureusement, mon corps a décidé de ne pas suivre. Mmh. Donc, j'ai arrêté un peu d'amertume. Quoi.
Ouais, prématurément. Pour toi, il n'y avait pas... Voilà. T'as pas pu arrêter quand tu le voulais.
Voilà, exactement.
Parce qu'aujourd'hui, si on rappelle ton actu, tu m'en as parlé, hein, t'es du côté de Reims et tu apprends et découvres un nouveau métier, mais toujours dans le football.
Oui, et c'est exactement ça. Je reste où j'étais, moi, toujours un passionné de football. Tout ce qui se passait au niveau terrain, j'étais assez attentif à ça. Donc aujourd'hui, je suis éducateur sportif au stade de Reims. J'entraîne une catégorie, les U11 plus précisément. Et je pense que pour moi, c'est un challenge et c'est une envie que j'avais après ma carrière de pouvoir former les jeunes joueurs à la pratique du football.
Est-ce que tu y prends plaisir?
Oui, bah, c'est presque pour moi, je te dirais, une thérapie. Parce qu'on a toujours ce manque quand on arrête, surtout quand, par rapport à moi, ça a été assez
fatal. Prématurément, on va dire.
Mmh. Oui, voilà. Donc après, d'être sur le terrain, de pouvoir, aider à la pratique du football, orienter les gamins sur le terrain, sur mon vécu, c'est un plaisir. C'est un plaisir tous les jours pour moi.
Quel souvenir, Biagui, tu gardes du GF38? Parce que tu as un parcours particulier quand même dans ce club. Tu es formé au club. Tu es formé au club. Tu arrives au moment où finalement ils sont champions de national. Ça monte en Ligue 2, où on a des joueurs comme Sergio Roras, Robert Malm. Tu arrives à ce moment-là à côtoyer des joueurs avec une expérience exceptionnelle et tu t'imposes au fil des années dans cet effectif.
Oui, c'est clair. Bah moi, c'est vraiment, on dira, le saut dans le grand bain. Parce que je suis même arrivé, même pas en début de saison, je suis arrivé en milieu de saison pour revenir un peu sur mon parcours. J'ai intégré la formation avec Robert Boivin, qui était directeur
du centre de formation.
Et il y avait c'était le gros projet GF38 qui commençait à débuter avec le président et Max Marty qui était directeur sportif, qu'ils avaient sur projet la palette du nouveau stade, un gros recrutement avec Gaël Danic, Dalmat, qui avait beaucoup investi sur la qualité des joueurs pour arriver aux objectifs de monter en Ligue 1. Donc c'est clair que pour moi c'était le saut dans le grand bain de découvrir tous ces joueurs là et les ambitions du club surtout.
Mmh, qui était forte.
Oui, c'est clair. C'est... Après c'était aussi mon envie et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai joué un peu en DH pour te dire. Avec l'équipe senior, après j'ai gravi des échelons, je me suis imposé avec l'équipe réserve et malgré les à cause des résultats de l'équipe première, ils ont décidé de faire appel aux jeunes. C'était Cuperli qui avait pris l'équipe.
Dominique Cuperli, exact.
Oui, voilà. Gros coach qui avait pris l'équipe et qui, lui, il faisait confiance aux jeunes et qui m'avait petit à petit intégré dans l'effectif. Et j'ai réussi à faire mon petit bonhomme de chemin et de m'imposer dans ce club-là comme un joueur phare du GF 38.
Ouais, parce que t'as marqué, mais je pense que c'est ton abnégation, c'est aussi ton travail. Et moi, de ce que je garde comme souvenir, c'est que ce que t'as décrit tout à l'heure dans ce que tu disais, de transmettre aux jeunes, j'ai toujours trouvé que tu trichais pas. T'as toujours tout donné, t'as toujours, t'étais conquérant sur le terrain, et je crois que c'est ce qui fait quand même ta force.
Ah bah, je te remercie d'avoir cette qualité, mais c'est clair que c'est mon état d'esprit de toute façon. J'essaie d'aller au bout des choses, j'essaie d'être assez carré dans ce que je fais, de pas tricher, de donner à chaque fois le meilleur de moi-même. Quoi qu'il arrive, j'ai un peu ce tempérament de battant et de compétiteur qui ont fait que je pense que c'est pour ça que j'ai aussi gravi les échelons au niveau professionnel.
Bah, en tout cas, c'était mérité. Est-ce que tu regardes encore actuellement le GF 38, justement ?
Oui, je te dirais un peu de loin.
Bien sûr.
Mais j'ai surtout suivi quand j'ai arrêté, parce que d'avoir laissé quand même le GF 38 en CFA, je l'avais un peu quand même sous la dent. J'ai pas réussi l'un de mes objectifs que je m'étais fixé quand j'étais revenu.
Bien sûr.
Et bah après quelques années, c'est avec grande joie que j'ai retrouvé le GF 38 au niveau national et après en Ligue 2.
T'aurais aimé faire partie de l'aventure de la montée jusqu'en Ligue 2. Toi qui as vécu la Ligue 2, le dépôt de bilan, tu reviens en CFA, ça aurait été une belle boucle, comme tu dis.
Oui, voilà. Et la montée surtout en Ligue 1, quoi. Parce
écoute,
que...
est-ce que toi, de ce que tu as vu depuis le dépôt de bilan et ce qui se fait dernièrement là avec un coach, Philippe Isberger, qui a l'air quand même exceptionnel, est-ce que tu sens qu'il peut se passer quelque chose cette année ?
Bah oui. Vu les résultats des précédentes saisons, le club commence à se stabiliser. Déjà. Par le coach qui est là depuis quelques années maintenant, par rapport aux dirigeants et par rapport surtout aux résultats des joueurs chaque week-end. Je pense que le club arrive maintenant à se stabiliser et peut postuler aux objectifs de remonter dans l'élite. Parce que je pense qu'une ville comme Grenoble se doit d'avoir un club à ce niveau-là, parce que c'est les supporters le méritent surtout, je dirais, et les gens aussi par l'engouement qu'il y a des supporters et des habitants de cette ville.
Tu gardes un bon souvenir des supporters.
Oui, bah comme tu l'as cité au début de mon interview, je suis passé dans différents clubs et j'ai jamais retrouvé cette ferveur qu'il y avait dans le public avec les Red Chaos qui soutenaient vraiment leur équipe et qui les poussaient vraiment.
La victoire contre l'OM en Coupe de France, tu y étais, c'était.
Oui.
Ça devait être un sacré. C'était un sacré moment.
Oui,
quand même.
J'ai retrouvé en fait ce que j'avais déjà vécu quand on était en Ligue 2. Et c'est clair que sur l'exploit qu'on a pu faire, surtout par rapport à la différence de niveau entre une équipe de CFA et la grande équipe de Marseille avec le coach Bielsa, c'est clair que c'était vraiment quelque chose de fort qu'on avait réussi à produire, à pouvoir éliminer cette grande équipe de l'OM qui a aussi un gros nom du championnat français. Et c'est clair que ça reste inoubliable.
Bah tu sais que d'ailleurs, il y a un t-shirt à l'effigie de la tête de Selim Bengriba quand il égalise. Ils ont fait un t-shirt collector Selim, je te promets. Ils ont fait un t-shirt à l'effigie de Selim.
Ah, mais ils auraient pu même lui faire une figurine, je pense que...
Écoute, petit à petit, il est entraîneur de la réserve, il fait avec Fred Guéguen, c'est bien.
Oui, si, de loin, mais après, moi, j'ai toujours des contacts un peu avec le médical, il y a Damien, le kiné, Damien Blanc ou Anthony.
Anthony Gimerano.
Oui, voilà, que j'avais côtoyé moi depuis que j'étais au GF 38, qui sont toujours au club et qui, de temps en temps, m'envoient des SMS pour me tenir informé. Mais c'est clair que c'est, ça reste quelque chose de fort. Céline a réalisé ce jour-là.
Bah, je crois qu'on le garde tous en souvenir, en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter au GF38 et passer comme message aux supporters?
Bah, de souhaiter au GF38, c'est de d'arriver à leur objectif, déjà,
bien sûr,
dans un premier temps. Et après, aux supporters, de retrouver surtout le stade.
Ah, ça,
le
c'est
stade,
sûr.
Je pense que ça doit beaucoup leur manquer.
C'est clair,
de pouvoir,
énormément.
Et de pouvoir aider, parce que je pense que ça reste quand même une frustration, eux, qui sont passés par différentes étapes avant de retrouver l'élite, de retrouver déjà l'enceinte du Stade des Alpes et pouvoir participer à la progression de leur équipe pour arriver à leur objectif.
Bon, et ben je crois que c'est clair. Biagui, on te remercie encore. C'était top de t'avoir, franchement. C'est un plaisir de t'avoir et merci d'avoir répondu présente.
Merci Biagui, à bientôt.
Ah, y a pas de souci, à bientôt.
À bientôt et porte-toi bien.
Merci. Merci.
Salut Biagui.
Forza Grenoble.
Allez, Forza Grenoble, Forza GF38. Ah, quel régal d'avoir Biagui Camisoko.
Encore
un ancien qui répond présent. Et c'est un régal. Allez, on va se quitter, mon Kevin. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et on reste bien sûr connecté sur RKS 97 FM.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot, ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.